With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Pourriez-vous imaginer de courir, nager, rouler à vélo sans voir? C'est ce que fait mon invité et il le fait de manière très rapide. Allez, c'est parti. Bonjour mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils et des rencontres avec des personnes inspirantes. Et mon invité du jour est triathlète, et probablement le plus rapide de tous ceux que j'ai reçus. D'ailleurs, sa difficulté est de trouver quelqu'un qui aille aussi vite que lui pour l'accompagner. Car Thibaut Rigaudeau est déficient visuel, une maladie lui fait perdre la vue depuis des années. Lui, qui a toujours été sportif, a fait évoluer sa pratique. Footballeur dans sa jeunesse, il est passé au futsal, puis a découvert qu'il pouvait faire du triathlon. En quelques années, il est devenu l'un des meilleurs de sa discipline et était aux Jeux Paralympiques à Tokyo. Avec son guide, ils ont loupé le podium à 28 secondes seulement. Mais au fait, comment faire du triathlon quand on ne voit pas correctement? Comment s'entraîne-t-il? Quelles sont ses sensations? Quelles sont ses difficultés? Et bien entendu, qui est son guide? Comment se sont-ils trouvés? Comment se passe la relation pendant une course? Et jusqu'où vont-ils aller tous les deux? Eh bien, ça fait partie de toutes les questions que j'ai posées à Thibaut Rigaudeau. Allez, c'est parti. Bonjour Thibaut.
Bonjour à toi.
Comment vas-tu?
Eh bien, ça va, malgré que je sois un peu fatigué.
Alors, un peu fatigué, parce que peut-être tu sors de l'entraînement ou de compétition?
Ouais, c'est ça. Je rentre des championnats de France de paracyclisme qui étaient ce week-end. Et ce matin, je me suis entraîné dans deux disciplines, donc un peu fatigué.
Alors, c'est quoi ces deux disciplines ce matin?
Ce matin, je me suis entraîné en natation très tôt ce matin. Et en fin de matinée, j'ai fait un footing, donc 45 minutes de course à pied.
Voilà, donc le quotidien d'un triathlète.
C'est à peu près ça, ouais.
Alors, je vais te laisser te présenter, définir un peu ton, nous expliquer un peu, bah, finalement, qui tu es, ce que tu fais.
Bah, on peut partir sur ça. En fait, je suis triathlète et plus particulièrement paratriathlète. Donc, en fait, je fais du triathlon depuis 3 ans maintenant. Et j'ai une particularité, c'est que je suis déficient visuel, donc j'ai une vision altérée. Et je pratique les trois disciplines qui sont la natation, le vélo et la course à pied avec quelques adaptations dans ma pratique.
Alors, c'est là où justement ça m'intrigue, cette histoire. Les adaptations dont tu parles, c'est lesquelles? Parce que j'ai envie de dire, quand on voit des coureurs, on voit souvent des coureurs avec des guides.
Oui, c'est ça.
Mais sur la natation, sur le vélo, comment ça se passe?
Bah, il se passe que j'ai intégré un club de triathlon, donc ça a facilité les choses. Et donc en natation, quand je m'entraîne en bassin, on va dire, j'arrive à repérer à peu près la ligne au fond. Donc je fais comme tout le monde. Donc en fait, je suis la séance comme tout le monde. En vélo, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut avoir souvent pareil, comme en course à pied, un guide. Donc là, je suis en tandem. Quand je suis à l'extérieur, et sinon quand je m'entraîne à l'intérieur, c'est sur home trainer, donc un vélo d'appartement, et puis voilà, en fait.
Les compétitions se déroulent comment?
Alors, les compétitions, c'est un peu différent. On a une particularité, c'est qu'on est guidé dans les trois disciplines par la même personne. Donc, on a un guide en natation où on a un lien qui nous unit. Nous, c'est au-dessus du genou, on va dire, et qui fait 80 cm assez un peu élastique.
Ouais.
Et ensuite, quand on passe en transition, on enlève le lien et on court tous les deux l'un à côté de l'autre. Il me dirige à la voix et au bras. Et ensuite, on monte tous les deux sur le tandem pour faire la partie vélo. Et ensuite, on descend du tandem et là, on accroche un lien. Donc là, le lien en course à pied… Il est un peu, en triathlon en tout cas, on décide un peu du lien qu'on veut. Donc, il doit faire pas plus de 50 cm non élastique. Et nous, on a décidé de le mettre à la ceinture parce que moi j'ai quand même un reste visuel, donc tout ce qui est ligne droite, j'arrive à me repérer. Et puis dans les virages, bah, Cyril me guide avec au bras ou et puis à la voix en même temps.
C'est quand j'y pense, parce que l'autre jour j'ai vu en plus un athlète, un coureur aveugle qui cherchait un guide. Et je me dis,
Ouais.
ça doit pas être facile de trouver un guide qui galope aussi vite que toi, qui nage aussi vite que toi et tout.
C'est vrai que c'est pas facile. Moi, j'ai eu la chance de progresser très rapidement en triathlon, en course à pied. J'avais déjà une base parce que j'ai fait du foot pendant très longtemps. Donc voilà, on va dire que la pratique de la course à pied, j'en ai fait depuis très longtemps. Et oui, ça a pas été facile au début. Après, faut pas être trop exigeant au début. De toute façon, on va pas trouver forcément des guides tout de suite. Après, il faut se diriger vers des associations ou contacter les différents clubs de course à pied du coin. Il y a souvent des gens qui sont intéressés, qui seraient intéressés pour guider des déficients visuels. Et après, le niveau, c'est vrai que plus le niveau du malvoyant ou du non-voyant augmente, plus c'est difficile de trouver des guides. Mais bon, pour l'instant, j'ai eu la chance de trouver des guides grâce aussi à la Fédération française de triathlon. Et puis, dans mon entourage aussi, j'ai quelques guides, mais ils commencent à se réduire du fait que mon niveau augmente, on va dire.
Et oui, c'est ça, parce que le niveau, mais on l'a pas dit finalement, c'est que tu es un athlète olympique.
C'est ça, ouais. J'ai participé aux Jeux paralympiques de Tokyo après 2 ans et demi de pratique. Donc, c'est quand même une belle ascension, mais je ne dois pas qu'à moi, on va dire, je dois aussi à Cyril Viennot qui est mon guide. Donc voilà.
C'est quoi la relation justement que vous avez tous les deux? Parce que c'est quand même des efforts que vous faites. Vous faites combien de sports ensemble? Dans la semaine, vous êtes tout le temps ensemble ou il y a des moments où vous entraînez pas ensemble?
Alors moi j'habite à Paris et lui il habite à Dole dans l'Est, donc on n'est pas tout le temps ensemble. Donc on va dire que la plupart du temps on s'entraîne chacun de notre côté. Mais on va dire qu'en moyenne, on se retrouve une semaine par mois. Après, ça diffère, hein, mais on va dire qu'une moyenne, c'est ouais, une semaine par mois ensemble, soit chez lui, soit en stage avec la fédération, soit nous aussi, on se prévoit des stages avec d'autres triathlètes valides pour un peu avoir de l'émulation et progresser et que voilà, on puisse créer des choses à deux. Et nous, on est beaucoup dans la réflexion et dans la performance, donc on essaie de trouver toujours les petits trucs qui vont faire qu'on va progresser encore, que ce soit dans le matériel, dans la position, dans pas mal de choses en fait. Donc voilà.
C'est une question que j'ai posée aussi à ceux qui font du swimrun. Je leur ai demandé si parfois, des fois, c'était tendu au bout de la ligne, s'il y avait des moments où vous entendiez pas très bien.
Alors nous, on n'a pas eu trop de moments où on s'entend pas bien. En fait, on s'entend vraiment bien. On va dire qu'on est assez complémentaires sur pas mal de choses. Et on a créé des liens humains qui sont bah, importants. Et pour tous les deux, c'est incompatible avec la perf de toute façon. Donc, si on n'était pas en symbiose à quasiment tout le temps, on va dire qu'on n'est pas toujours d'accord sur. Enfin, on est souvent d'accord, mais on n'est pas tout le temps sur la même longueur d'onde sur des petits détails, quoi. Mais c'est vraiment. Enfin, on va dire que globalement. On va dire qu'il a un tempérament où il est très très carré sur pas mal de choses. Donc moi, ça m'aiguille beaucoup et voilà. Donc quand on est novice dans la pratique, moi je l'écoute et voilà. Même si j'ai mon mot à dire de toute façon, donc on est dans le partage, dans la communication et dans l'échange, dans tout le temps en fait.
Oui, de toute façon, j'imagine que pour toi, c'est important parce qu'il doit vraiment te guider, te dire ce qui se passe ou qui c'est que tu as à côté, les adversaires et tout le monde, quoi.
Ouais, c'est ça. En fait, ça s'est fait un peu naturellement. Au début, il me disait beaucoup, beaucoup de choses parce qu'il connaissait pas du tout le handicap visuel. Donc, en course à pied, bah, en natation, pas trop, on peut pas se parler, mais surtout en course à pied, il m'indiquait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, les obstacles, etc. Et en fait, il a appris à connaître le handicap visuel et à connaître mes difficultés et savoir quand j'avais besoin de telle ou telle information pour m'aider, enfin, j'ai toujours besoin d'informations sur les adversaires, mais quand on fait des footings, etc., il sait s'il doit m'indiquer un trottoir, une racine, etc. Chose qu'au début, il m'indiquait tout, 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 et c'était beaucoup d'informations pour pas grand-chose. Des fois, même pour lui, c'était un peu chiant, une redite. Et puis là, on a trouvé je pense que c'est devenu naturel, en fait. On se parle, il parle à bon escient.
Oui, c'est ça aussi la compréhension, c'est que maintenant il sait exactement ce dont tu as besoin et puis à quel moment finalement il n'a pas besoin de te le dire.
Ouais, voilà, c'est ça, en fait, c'est devenu naturel, on va pas dire une relation de couple, mais enfin, il sait ce dont j'ai besoin, et voilà, donc, J'ai plus de. Si vraiment j'ai besoin d'informations, je lui demande pendant la course, etc. Et ou alors je lui demande en amont de la course pour que si pendant la course cette situation arrive, je veux les informations, quoi.
Bien sûr, nous, quand on est voyant, même si bon, moi j'ai un petit problème de vue, mais je vois tout. On a toujours une question sur les sensations que tu peux. Parce que les compétitions, par exemple, c'est en eau libre ou pas?
Les compétitions de triathlon, c'est un eau libre, ouais, tout le temps.
Ouais. Donc le vélo aussi, donc c'est tout. De toute façon, c'est tout sur des
C'est comme du
roues, sur,
triathlon valide, en
comme du
fait.
triathlon valide. Hein,
Ouais,
donc.
c'est ça.
C'est vrai que les sensations, je me rends pas compte de ce que tu vois dans l'eau ou pas, ou ce que tu arrives à percevoir. Est-ce que tu dis finalement dans une piscine, tu as la ligne d'eau que tu arrives à repérer, mais dans le reste du temps?
En fait, on repère pas mal les parcours en amont. On a souvent des repérages de parcours la veille de course. Et par exemple, au départ, je suis à côté de lui, il m'indique avec son bras où est-ce que se situe la première bouée. Donc, j'ai la direction à peu près dans ma tête. Je visualise en gros dans ma tête la première bouée et je sais où est-ce que je dois me diriger. Et après, en fait, c'est le lien qui fait office de guide, quoi. Mais dans l'eau, on ne se parle pas et moi, c'est qu'aux sensations, en fait. Si le lien se tend, ça veut dire que je m'écarte de lui, donc je dois me rapprocher. Et vice-versa, sinon il a tendance à se coller à moi pour que je me décale un peu sur la droite, enfin voilà, etc. Et à chaque bouée, à 2-3 mètres de la bouée, ou à 2 mètres de la bouée, il me tape sur l'épaule. Et là, moi, je sais que ça va arriver, donc je sais qu'à 2 mètres, je vais pouvoir voir la bouée. Donc je lève la tête, et là, je vois des énormes bouées, donc je les vois, et je peux prendre le virage correctement. Et voilà, on continue comme ça jusqu'à la prochaine bouée, parce que souvent, je connais les angles du virage, en fait. Donc, je sais, je prends le virage et je me pose pas de questions. Après, je continue à nager. Et voilà, lui, il va faire des virages un peu plus larges souvent. Donc, il me rattrape un peu. Voilà. Et après, il se met à côté de moi pour me diriger jusqu'à la sortie d'eau.
D'accord. Ouais, effectivement, donc c'est là où la connaissance aussi de guider, etc., c'est extrêmement important.
Ouais.
Ça, c'est devenu. Enfin, vous devez faire beaucoup de stages, tu l'as dit, hein, vous voyez une fois, une semaine par mois environ pour travailler ça. J'imagine que la toute première fois, ça n'a pas dû être évident quand même d'arriver à trouver ces petits repères, ces consignes, savoir comment dialoguer et échanger là-dedans.
Ouais, c'est en fait on se pose tous les deux tout le temps des questions sur ce qui est le mieux à faire, sur comment on va faire. Et ouais, on a beaucoup dialogué. Après, quand on repère des parcours, par exemple, on s'arrête souvent à la première bouée, à la deuxième bouée, à la troisième bouée pour échanger, pour savoir ce qui est le mieux pour moi. Parce qu'il y a des bouées, par exemple, quand il y a du soleil, je peux pas les voir, ou quand il y a pas de soleil, enfin, voilà, vice versa, je les vois. Et donc, faut trouver les meilleures choses à faire sur la course et aussi savoir la stratégie de course, savoir si on part fort, on part pas fort, on se cale dans les pieds des adversaires, on part devant. Enfin, et voilà, en gros, on a plusieurs stratégies de course. Et moi, comment, en fonction de comment on prend le départ, je sais à peu près où est-ce qu'on est dans la course, qu'on connaît tous nos concurrents de toute façon. Donc, on sait. Indirectement, je sais ce qui se passe, mais dès la sortie d'eau, Cyril, il m'indique à peu près les écarts par rapport aux autres binômes, où est-ce qu'on est, etc., pour que je puisse me situer et puis qu'on avance ensemble, quoi.
Tu l'as, on l'a pas dit, mais t'as pas toujours été malvoyant.
J'ai pas toujours été malvoyant, mais j'ai une pathologie que j'ai depuis tout petit qui a été diagnostiquée à mes 8 ans. Et en fait, moi, je perds la vue petit à petit, et voilà, ce qui va sûrement arriver, c'est la cécité totale dans quelques années, mais on verra.
D'accord. Est-ce que, enfin, ça, il y a des catégories dans le triathlon, parce qu'il y a différents types de déficience visuelle finalement. Ça te ferait changer de catégorie au fur et à mesure que ta maladie peut évoluer, ou c'est finalement ça joue pas tant que ça?
Ça pourrait évoluer. En fait, il y a trois catégories, donc les non-voyants, les B1, donc blind one, et ensuite il y a les B2, B3, donc les malvoyants. B2, c'est très malvoyant, on va dire, et B3, c'est malvoyant plus léger. Quand j'ai fait du cécifoot il y a quelques années, il y a maintenant une petite dizaine d'années, j'étais B3, donc malvoyant léger. Et en fait, là, je viens de passer en catégorie B2, donc malvoyant un peu plus lourd, on va dire. Et ça pourrait me faire passer dans quelques années, peut-être en catégorie B1. Donc les catégories B1, c'est des très très malvoyants ou des non-voyants complets. Et pour les mettre à égalité, ils nagent avec des lunettes opaques, Pareil, ils montent sur le vélo, ils ont des lunettes de soleil opaques et pareil en course à pied, voilà, pour que tout le monde, tous les non-voyants soient sur un pied d'égalité et qu'il n'y ait pas de, il n'y ait pas de triche dans ces catégories-là. Et il faut savoir que nous, les malvoyants, donc les B2, B3, on part en même temps. Donc il n'y a pas de différence entre les très malvoyants et les malvoyants plus légers. Et on part 3 minutes 21 après les non-voyants. Donc pour nous, c'est une course-poursuite jusqu'à l'arrivée et c'est le même classement que pour les B1, B2 et B3.
D'accord, il y a un classement pour les trois catégories.
Voilà, il y a un classement. Donc, on va dire que en fonction des parcours, donc nos distances, c'est des distances sprint, donc c'est 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Et en fait, cette pondération de 3 minutes 21, elle y est pour toutes les courses. Donc, des fois, il peut y avoir que 18 km à vélo et 4,8 km de course à pied. Et là, on va dire que ça peut changer beaucoup de choses. Donc, ça laisse moins de temps aux malvoyants de revenir sur les non-voyants. Donc voilà, donc en fonction des parcours, on peut voir différents classements, mais on retrouve quand même souvent les mêmes aux premières places. Voilà, on va dire qu'il y a 3-4 binômes non-voyants et il y a 6-7 binômes malvoyants qui se disputent les 10 premières places au classement mondial en paratriathlon.
Ouais, à Tokyo, vous avez fini quatrième, c'est ça?
C'est ça, on a fini quatrième, ouais. Un peu décevant, mais bon, on espère. De toute façon, on espérait une médaille. On était 10 au départ, et pour nous, il y avait 8 personnes qui pouvaient espérer faire une médaille. Et en fait, on n'avait pas compté le Japonais qui était invité. Et en fait, il a beaucoup mieux réagi à la chaleur. C'est un non-voyant, donc il est parti 3 minutes 21 avant nous. On l'avait battu déjà 2 fois, et voilà, il a fait la course à pied de lui. Il a fait la course à pied à sa vitesse. Alors que tous les autres ont subi la chaleur avec c'était 30 degrés je crois en course à 32 degrés en course à pied avec ressenti 37 degrés avec 86% d'humidité. Donc c'était franchement un calvaire. On a tous plus ou moins vécu un calvaire. Le champion d'Europe qui est espagnol, enfin l'ancien champion d'Europe avant les Jeux, pareil, il a explosé complet. Enfin bref, on a tous subi notre course à pied. Et bah, bravo au Japonais parce que bah, il était chez lui et il a mieux vécu la chaleur que nous.
Ouais, mais c'est vrai que ce facteur chaleur, on l'a vu, hein, sur. C'était annoncé en plus depuis des années
Ouais,
que
ouais.
ça serait problématique. T'avais essayé de te préparer, vous avez essayé de vous préparer à ça ou c'était impossible?
Alors, on a essayé de se préparer, ouais, avec la Fédé, mois de novembre 2019 et mois de novembre 2020. On est parti 2 semaines à La Réunion pour retrouver ces conditions-là. Donc voilà, on a fait ça. Après, à certains stages, on allait en thermo-training room là, pour reproduire la chaleur, ce qu'il y a, il y a des... Voilà, on en retrouve de plus en plus. Et nous, avec Cyril, on a aussi parti à Lanzarote, donc sur l'île, afin de retrouver un peu de chaleur et d'humidité aussi. Mais ça n'a pas suffi finalement. Alors que juste avant de partir, moi, je me suis fait 2 séances de home trainer dans la salle de bain avec le chauffage à fond et le diffuseur d'humidité d'air. Et voilà, donc c'était sympa, mais bon, ça n'a pas suffi.
Comme quoi les tactiques, bah, tout le monde a des tactiques, hein. C'est vrai que ceux qui s'entraînent dans le froid, ils vont dans les chambres froides aussi pour essayer de simuler finalement des conditions. Mais c'est vrai que, et puis on les a vus, hein, tous les athlètes, quelles que soient les disciplines, hein, que ce soit les handicapés, pas handicapés, tout le monde a souffert, vraiment, c'était des jeux compliqués là-dessus, quoi.
Ah ouais, tout le monde a souffert de la chaleur. Certains plus que d'autres, mais la chaleur, elle était. On espérait avoir un peu moins chaud parce qu'il y a des jours où il faisait quand même un peu moins chaud. Mais nous, on a eu une journée, enfin les 4 5 jours où on a été à Tokyo. Déjà dès 5 heures du matin, tu sors de l'hôtel, il fait noir, mais enfin de l'immeuble, était déjà moite, transpirant, alors qu'il est 5 heures du matin, il fait déjà 28 degrés et avec beaucoup d'humidité. Donc ouais. On savait que ça allait être dur. Déjà en partant, l'eau était annoncée à 30,1. Donc autant dire qu'on n'a pas pu se rafraîchir un peu dans l'eau avant de monter sur le vélo. Mais bon, c'était le jeu, on le savait. Hein, et voilà, Cyril a fait, donc mon guide a fait plusieurs fois l'Ironman d'Hawaï, enfin 9 fois l'Ironman d'Hawaï. Donc il connaissait ses chaleurs. Donc en course à pied, il connaissait ma souffrance et il m'a dit, bah oui, juste, tu peux pas avancer plus vite, en fait, il n'y a rien à faire et c'est comme ça. Et voilà. Hein.
Tu
On a
viens de
fait
me
au
dire
mieux en tout cas.
que ton guide a fait 9 fois l'Ironman d'Hawaï?
Ah oui, mon guide a été champion du monde de triathlon longue distance, donc en valide en 2015, et détient la meilleure performance sur l'Ironman d'Hawaï, la meilleure performance française sur l'Ironman d'Hawaï. Il a fini cinquième et une fois sixième aussi. Donc, alors lui, la chaleur, il adore ça. Et puis, mais par contre, c'est complètement, il a un peu modifié son entraînement depuis qu'on est ensemble parce que c'est les distances complètement différentes. Donc, il est revenu sur des filières un peu différentes.
Comment vous êtes trouvés tous les deux?
C'est la fédération qui nous a mis en relation. En fait, moi, j'ai rencontré un autre champion du monde de triathlon longue distance, Bertrand Bière, qui est mon coach maintenant, à mon premier stage en avril 2019. Et Bertrand s'est blessé, s'est cassé la clavicule. Et on devait faire sûrement une Coupe du Monde ensemble. Et il s'est avéré que c'était pas possible puisqu'il s'était cassé la clavicule. Et Cyril Viennot a été appelé par la Fédé pour remplacer un guide d'un autre athlète qui était voilà le guide n'était pas là, donc il a fait une Coupe du Monde à Besançon qui est pas très loin de chez lui avec Arnaud Grandjean aussi un autre paratriathlète malvoyant. Et il a bien aimé la fédération. Moi je faisais la course mais en open, donc j'étais pas rentré sur la start list encore. Voilà, et j'avais fait des bons temps pour un premier avec un premier. Bon, c'était mon deuxième triathlon avec un triathlète de la région parisienne. Et 2 semaines après, on nous a annoncé qu'on allait faire une Coupe du Monde ensemble. On ne se connaissait pas. Donc Cyril est venu 3 jours à Paris. On s'est entraîné. Il était monté une fois sur le tandem pour faire la Coupe du Monde à Besançon. Donc autant dire que pour la première fois, en plus à Paris, on a dû aller autour de l'hippodrome de Longchamp pour essayer le tandem. C'était une belle galère, donc techniquement, on a déjà tout de suite travaillé. Et puis, on est parti à notre première Coupe du Monde en juillet 2019. Et pour notre première course, on a fait un podium en Coupe du Monde. Donc, c'était déjà bien parti. Et puis après, la machine s'est lancée, on s'est rapprochés, on a créé des choses ensemble. Et puis voilà, ça continue maintenant.
C'est-à-dire qu'en fait, la fédération, elle cherche des athlètes qui sont capables de vous accompagner quand vous augmentez en niveau, d'avoir des gens justement pour vous accompagner. Ils cherchent des, parce qu'il faut le dire quand même, il faut des très bons triathlètes pour être capable de t'accompagner.
Ouais, il faut des triathlètes qui soient plus forts que moi dans les trois disciplines. Donc, il n'y en a pas partout et qui est un peu une marge, on va dire, une marge de sécurité dans chaque discipline. Et ouais, donc la Fédé continue à chercher toujours des triathlètes qui veulent se lancer de nouveaux défis ou par exemple des athlètes, des très bons athlètes en fin de carrière ou voilà, ça peut être ça. Donc ça a été le cas pour Cyril. Donc voilà, ça a fait un nouveau projet pour lui, mais il continue aussi ses courses en valide tout seul, en pro. Et voilà, la Fédé continue à chercher des athlètes parce que il va en falloir. Il y a d'autres paratriathlètes déficients visuels qui arrivent. Donc là, il va en falloir. Et sachant que en fait, il faut savoir que le tra entre guillemets le job de guide, c'est pas que le job pendant la course. Enfin, moi, je sais que Cyril, il gère pas mal de choses, tout ce qui est logistique du tandem, mécanique du tandem, chose que des fois, je ne peux pas gérer tout seul visuellement. Et puis, je n'ai pas la connaissance qu'il a sur le matériel, etc. Enfin, voilà, trouver le bon matériel, savoir s'équiper, d'avoir des bons conseils. Donc, il a un rôle plus que juste être là pendant la compète, quoi.
Ouais, j'imagine ouais, qu'effectivement, sur la logistique, etc., ça doit être. Parce que sur les transitions, c'est une question que je ne t'ai pas posée. Sur les transitions, il doit te guider pour te dire où sont les chaussures, les choses comme ça, où il y a des repères spécifiques.
On repère à peu près où on a posé le vélo. Moi, je sais à peu près si on est à la premier tiers, deuxième tiers ou troisième tiers du parc à vélo, mais je sais pas exactement. Après, quand on est sur la partie transition, on court jusqu'au vélo, on est l'un à côté de l'autre. Et lui, il passe juste devant moi quand on arrive au vélo et il me dit c'est là. Et en fait, en amont de ça, on a bien positionné les chaussures, les liens de course à pied et puis le casque sur le vélo, à savoir pour que je perde pas de temps à la transition et qu'on puisse voilà monter sur le vélo le plus rapidement, savoir quand est-ce qu'on saute sur le vélo juste après la ligne. Enfin, il y a pas mal de choses. En fait, on communique beaucoup en amont pour que pendant la course, on ait le moins de choses à se dire en fait. Pareil en course à pied, quand on pose le vélo, en fait, on a mis stratégiquement toutes les choses pour que moi, j'ai le moins d'obstacles possible, que je tape dans aucune chaussure, que je peux ne pas voir ou dans n'importe quoi. Donc, non, non, ça, c'est bien géré en amont et on a testé pas mal de choses pour savoir ce qui est le plus rapide, le moins rapide, etc. Et voilà, maintenant on est à peu près rodé, s'il y a besoin de donner des conseils, je pense qu'on est pas mal avisé maintenant.
Ouais, et puis on l'a dit, hein, c'est que donc là c'était une expérience aux Jeux Olympiques cette année, mais dans 3 ans il y a Paris.
Ouais. Moi, quand j'ai commencé le triathlon en septembre 2018, je me suis dit, premier objectif, allez, ce serait peut-être de participer aux Jeux de Paris en 2024. Et déjà, j'ai bien participé à Tokyo parce que quand même, on a fait une quatrième place après 2 ans et demi de pratique, on va dire, un peu intensive. Et là, bah oui, hein, si on continue l'aventure ensemble, le but, c'est d'aller chercher une médaille à Paris. On va pas se le cacher.
Bon, là, au moins, sur l'adaptation au climat, c'est pas de problématique, hein.
Ouais, non, là, ça devrait aller en termes de climat. On connaît à peu près et ça va aller.
T'as l'entraînement, enfin, t'as quel statut? T'es pas pro, t'as un métier à côté?
Alors, je suis pas pro. Enfin, je suis sportif de haut niveau, en fait. Je suis sportif de haut niveau. J'ai obtenu mon diplôme de kiné en juillet de l'année dernière. Donc, ça a été un peu compliqué avec le Covid, etc. Et puis, en fait, j'ai consacré mon année pré-Jeux paralympiques pour mettre toutes les chances de mon côté pour être sélectionné pour les Jeux, voilà, sans travailler. Donc, un peu de sacrifice. Après, moi, j'ai des fondations, des associations qui m'aident financièrement, la Fédé qui nous soutient aussi, pour pouvoir lier la pratique du triathlon sans pour autant être à la rue et pouvoir vivre correctement. Donc voilà, on a mis des choses en place pour qu'on puisse avancer et que je puisse progresser sans trop me poser de questions sur enfin ce que je vais pouvoir manger à la fin du mois. Donc c'est pas la fortune, mais on y arrive.
Oui, alors surtout qu'en plus le triathlon est un sport qui est quand même réputé comme étant coûteux. Surtout que j'imagine que trouver un vélo, un comment s'appelle,
Un tandem?
un tandem de compétition, ça ne doit pas être donné.
Alors, j'en avais trouvé un au début par un ancien, enfin non, un quelqu'un qui a été aux Jeux en paracyclisme, Raphaël Beaugilet avec François Pervis, son guide, donc il m'a vendu son ancien tandem. Donc ça a été déjà un coût assez important pour moi au départ. Et on a fait faire avec Cyril un tandem sur mesure qui a été financé par des dons où la fondation Valentin Houy a pris en charge ces dons-là. Donc c'est un budget de 13 000 euros à peu près.
Ouais.
Donc c'est quand même conséquent, sachant que voilà, il y a toujours des choses à acheter sur le vélo. Le cycliste, ça coûte très cher. Le tandem, ça coûte cher aussi. Et puis oui, le triathlon en général, ça c'est assez coûteux. Surtout en étant malvoyant, il faut acheter des choses en plus, etc. Donc voilà, c'est contraignant, mais bon, on aime bien la galère. Hein. Moi, j'aime bien la galère, donc je continue.
Ouais. Tu t'entraînes combien d'heures par jour? Parce que finalement, tu dis, tu t'es dédié au triathlon là pendant, t'as pu le faire. Ça représente quel volume d'entraînement en fait?
On va dire que c'est allez, entre 15 et 25 heures sur les semaines ouais, sur les semaines. Alors, on va dire qu'on est autour sur les semaines chez moi. Et on est plus à 25, voire les 30 heures maximum sur des semaines de stage, soit avec la Fédé, soit des semaines de stage perso.
Ouais.
Voilà, donc c'est assez conséquent, sachant qu'il y a pas mal de. Moi, je suis à Paris, donc tu as pas mal de déplacements pour aller à la piscine, pour aller. Enfin, quand je m'entraîne qualitativement en course à pied, je vais sur la piste, donc ça, j'y vais en marchant parce qu'en courant, c'est un peu compliqué visuellement. Donc ça prend pas mal de temps. Enfin, faire des séances sur le home trainer, faut les enregistrer, pour les planifier, etc. Non, ça tout prend un peu de temps, un peu plus de temps qu'un invalide, on va dire. Moi, je peux pas prendre, sortir mon vélo et partir courir et partir faire du vélo comme ça. C'est différent, mais voilà. En ayant 20-25 heures d'entraînement, on va dire qu'on arrive à caler ça assez facilement si on est bien organisé.
Oui, oui, l'organisation, j'en doute pas, parce que l'accessibilité de certains lieux doit pas être si simple que ça, parce que nous, on s'en rend pas compte, mais
Ouais,
hors des lieux, c'est pas si simple que ça du tout pour y accéder.
c'est pas toujours facile. Après, moi, je commence à connaître pas mal de lieux. Donc, c'est ça, les premières fois, c'est un peu compliqué, on va dire, mais au fur et à mesure, on s'adapte. Mais par exemple, pas mal de séances sur la piste et j'essaye de trouver des créneaux où il n'y a ni les scolaires, ni les entraînements d'athlétisme, ni pour m'entraîner en journée parce que le soir c'est compliqué pour moi, parce que je vois beaucoup moins. Donc ça m'arrive d'éviter un jeune qui traverse la couloir 1 au dernier moment ou même de le prendre. Donc quand je m'échauffe souvent autour de la piste et qu'il y a des professeurs de PS, j'essaye d'aller les voir tout de suite dès que j'entends la voix des pour bien avertir les élèves qu'ils fassent attention au couloir 1 parce que voilà, je dis clairement que je suis malvoyant. Et au moins les gens comprennent et ils font plus vite attention que des fois les petits malins qui font des blagues, qui traversent au dernier moment, etc. Donc, je préfère prévenir avant et puis ça me permet d'être sûr de pouvoir faire ma séance bien calibrée plutôt que d'être aux aguets tout le temps, de savoir si c'est quelqu'un qui traverse. Donc voilà, après, c'est pareil en natation, quand je vais dans des séances publiques, il faut slalomer, quoi. Et sachant que souvent je nage le plus vite, il faut que je double, je vois pas si c'est quelqu'un qui arrive en face. Donc c'est un peu c'est un peu une mission tous les jours, mais bon.
Je t'ai vu, j'ai vu une vidéo de toi il n'y a pas longtemps, tu as gagné un triathlon, c'était ton club qui organisait ça ou nager en
Ouais,
piscine,
c'est ça.
etc. là?
Ouais, c'est mon club qui a organisé ça là il y a une semaine maintenant où c'était natation en piscine, donc un bassin de 25 mètres où il fallait faire 300 mètres. Après, on montait sur le home trainer où il y avait un parcours retracé dans Paris, donc on avait enfin moi je voyais pas le parcours, mais les sensations sur la tablette où on voyait les différents pourcentages de dénivelé. Et puis après on partait en course à pied sur un parcours qui était globalement sur la piste avec quand même des allers-retours, donc il a fallu trouver quelqu'un pour m'accompagner sur le vélo pour me donner les indications de où j'en suis, à quelle puissance je développe pour pas que je me crame, etc. Et en course à pied, j'ai suivi quelqu'un sur le parcours que j'avais repéré. J'étais venu bien plus tôt pour repérer le parcours. Et puis voilà. Hein. Donc on trouve toujours des solutions, même si ouais, c'est un peu plus chiant des fois, mais bon.
Parce que moi j'ai vu la vidéo arriver au début, j'ai pas capté que t'étais malvoyant en fait sur l'instant quand je
Ouais,
te vois arriver.
ouais, ouais.
Parce que la vidéo d'arrivée, on n'a pas l'impression parce que t'arrives tout seul en plus, on voit pas le que t'as quelqu'un qui t'aide, qui te guide un peu.
Alors si, en fait, il a voulu s'écarter au dernier moment, mais je lui ai dit, attends, tu restes avec moi, tu as fait la course à pied avec moi, donc tu restes avec moi, on a passé la ligne ensemble. En fait, je le suivais pour avoir un point visuel juste devant moi. Et ouais, après, ça m'arrive de faire des séances sur piste tout seul, comme je disais tout à l'heure. Mais là, avec la fatigue du vélo et de la natation avant, j'étais quasiment obligé d'avoir quelqu'un pour être sûr de ne pas taper dans les barrières, dans les banderoles, etc. Donc, mais ça m'a permis de battre tous les valides. Donc c'était cool et c'était un petit truc vraiment sympa avec le club. Donc, une super ambiance, super organisation. Donc, vraiment cool.
Tu penses que ça peut être des formats qui pourraient être intéressants justement pour développer le triathlon et notamment dans les quand tu as un handicap où ça sécurise aussi, j'ai envie de dire, un peu l'espace?
Ben ouais, ça c'est sécurisant. Il y avait une personne hémiplégique qui a fait le triathlon, par exemple. Et moi, j'avais envoyé un mail à toutes les promotions de kiné dans l'école dans laquelle je suis passé. Et il y a quatre déficients visuels qui ont fait le triathlon. Donc, au moins, ça a permis de découvrir la chose. Et tout le monde a été ravi de pouvoir participer. Et puis, de se retrouver aussi avec des valides et pouvoir échanger sur pas mal de choses. C'est que d'être dans son coin, des fois, c'était vraiment bénéfique pour tout le monde. Et les personnes du club ont joué le jeu en étant guide comme pour moi. Donc, ça a été vraiment très sympa et les deux malvoyants qui ont juste commencé, qui ont juste découvert pour leur premier triathlon, ils espèrent en refaire d'autres. Donc voilà, je suis content de pouvoir aussi, moi, amener enfin, et susciter de l'intérêt par des déficients visuels au triathlon et à la pratique du sport en général parce que j'en ai toujours fait et je continuerai d'en faire même si je deviens aveugle par la suite. Donc voilà.
Oui, parce que t'as toujours été sportif, t'as commencé par tu parlais du cécifoot, foot, mais avant tu faisais du foot normal, enfin.
Ouais, j'ai fait du foot valide pendant jusqu'à mes 20, 21 ans. Donc voilà, j'ai un peu joué dans tous les niveaux, à tous les postes. Et voilà, c'est quelque chose qui restera pour moi ma première passion. Mais je peux plus trop jouer au foot. Après, j'ai eu une rupture du ligament croisé. Donc forcément, la blessure du footeux, ça aide pas pour reprendre le foot. Mais je suis toujours le foot, je suis toujours mes potes qui jouent au foot en Vendée où je suis originaire. Et puis j'ai pas mal de potes sur Paris qui jouent au foot, donc j'ai toujours un pied dans le foot. Et après, comme on disait tout à l'heure, vu que j'ai perdu la vue petit à petit, j'ai fait du cécifoot. Donc, en gros, c'est du futsal, c'est du foot en salle pour déficients visuels. Voilà, nous, on a joué contre des équipes valides. C'était juste que le ballon devait être contrasté par rapport au sol et que les maillots devaient être contrastés. Mais ça restait du foot. Donc, voilà. Mais après, c'était plus possible pour moi. Tous les changements d'appui, etc. Et puis, il a fallu trouver une solution pour continuer à faire du sport et continuer à prendre du plaisir tout en se dépassant et en performant si possible. Et voilà, j'ai trouvé le triathlon. J'ai commencé d'abord par la course à pied un petit peu et je me suis dit, allez, on va quand même complexifier la chose. Et j'ai fait du triathlon.
Oui, c'est ça, j'ai de dire, mais comment tu découvres que tu peux faire du triathlon en fait?
En fait, ce que je dis souvent, c'est que c'est commencé à passer sur la chaîne L'Équipe et ça m'a intrigué et voilà. Et j'ai dit, bah, il faut essayer. J'y allais nager une fois de temps en temps. J'ai dit, ah, c'est sympa de nager. J'avais fait une licence STAPS, donc j'avais déjà fait un cycle de natation. J'ai trouvé ça sympa. Après, le vélo, bah, ça faisait très longtemps que je faisais plus de vélo parce que la dernière fois que j'ai pris un vélo, j'ai fini dans un arbre, non pas dans un arbre, dans une bitt jaune là, au bord de la route. Donc
Ouais.
j'ai vite arrêté. Et puis voilà, après la course à pied, j'en ai toujours fait. Enfin, en tout cas, sur le terrain, je courais beaucoup. Et voilà, il fallait canaliser un peu tout ça. Et j'ai fait mon premier 10 bornes en juin 2018 avant de commencer le triathlon. Et puis avec un pote à moi qui m'a guidé sur le 10 bornes. Et puis après, c'était parti. J'ai fait un 5 bornes. Et puis après. J'ai refait un 10 bornes et là j'ai arrêté de m'entraîner n'importe comment et j'ai fait du triathlon.
C'est par curiosité, c'est quoi tes références sur 10 km?
Le dernier que j'ai fait maintenant, c'est il y a un an et demi, j'ai fait 35-30 et voilà, on aimerait bien avec un gars du club essayer de refaire un tous les deux. On voit à peu près la même chose, donc si j'arrive à le suivre, enfin, j'essaierai de le suivre. Si je peux plus le suivre, j'arrêterai, je pense. Et autour des 34 minutes, j'aimerais bien.
Ouais, ça va vite, hein. C'est pour ça qu'il faut trouver aussi les guides qui vont bien, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais après, on va dire qu'en France, on n'est pas beaucoup de déficients visuels à aller aussi vite. Hein. Il y a quelques déficients visuels qui courent fort. Et ouais, il faut des guides qui soient capables de courir, on va dire, pour être sûr, 32, 32, 30 au 10 bornes.
Ouais, c'est ce que cherchait justement le déficient là qu'on a. Moi je suis à Clermont et dans le club, je crois qu'il cherchait un coureur autour de 32 justement pour arriver à l'accompagner sur ses performances là. Parce que c'est vrai que c'est pas simple hein, de courir à cette vitesse là. Tu dis il faut un peu de marge, etc. Mais en plus, j'ai envie de dire quand même pour des coureurs, ça fait une nouvelle expérience, mais ça permettrait aussi d'accéder à des bah, accéder aux Jeux Olympiques. Finalement, c'est aussi une sacrée expérience quoi.
Clairement. En fait, moi je dirais que le rôle de guide en athlée, il est un peu différent de celui en triathlon. En athlée, c'est surtout sur piste, on va dire. Nous, en France, on n'a pas beaucoup d'athlètes déficients visuels qui pourraient performer sur 10 bornes, semi ou marathon. Il y a des chronos corrects, mais il n'y a personne qui pourrait atteindre le niveau international. Et en athlée, c'est beaucoup du guidage, de la direction, enfin, d'être en symbiose avec l'athlète pendant tout le 100, 400, 800, 1500, etc. Alors qu'en triathlon, c'est vraiment, on va dire, le guide, il a un rôle au moins à 50% sur la perf. Parce que sur le vélo, si le guide, il est pas bon, le tandem, il avancera beaucoup moins vite. Donc, faut savoir qu'en triathlon, quasiment tous les guides des binômes haut niveau sont des guides qui sont pros en triathlon valide. Donc, ils ont tous des références. Il y a un Américain qui a fait 4 à l'Ironman d'Hawaï, par exemple, Andy Potts. Après, chez les Anglais, ils ont des très bons aussi. Donc, partout, chez les Espagnols aussi. Donc, voilà. Ça permet aux guides de vivre une aventure. Qui pourrait pas vivre en solo, c'est souvent ça, quoi.
Ouais, parce qu'en plus tu le dis, ton guide, il a fait l'Ironman, donc il redescend dans les. Alors c'est vraiment pas du tout les mêmes distances. Hein. Alors là, c'est
Non,
sûr
c'est pas du tout la même distance.
sur le trail, c'est incroyable, mais c'est des distances sur lesquelles en olympique, il pourrait pas aller tout seul.
Non, en fait, ouais, il a c'est ça, oui, enfin, il a été dans des bons valides distance olympique, mais jamais assez fort pour rivaliser avec les meilleurs Français et les meilleurs mondiaux du coup. Mais en longue distance, il a trouvé son truc et voilà. Les gars du, on va dire, nous on dit les courtes distances et les longues distances. Les gars du court distance, ils sont beaucoup moins pour l'instant avec les paratriathlètes. Ça va peut-être venir, mais par exemple, les athlètes de courte distance peuvent pas être guides s'ils ont fait un an de compétition internationale en amont. Donc il faut attendre un an d'arrêt de ces gars-là pour pouvoir guider ensuite.
D'accord. Ouais, donc il y a des contraintes réglementaires aussi
Ouais.
qui limitent l'arrivée de ces guides, enfin en potentiel guide, quoi.
C'est ça, c'est ça, c'est ça. On pourra avoir, si Vincent Louis, par exemple, le meilleur triathlète français, arrête sa carrière un jour, il pourrait être guide en paratriathlon, mais voilà, on n'en est pas là. De toute façon, il a sa carrière, mais ouais, ça pourrait être le cas. Il y a Tim Don, par exemple, chez les Anglais, qui a fait les Jeux, qui est guide remplaçant chez les Anglais.
Ouais, bah imagine, il s'arrête l'an prochain, il fait un an de pause et puis il revient pour Paris avec toi.
Ouais. Après, là, on a décidé de monter le projet avec Cyril. Donc, mais pour Los Angeles. Pour Los Angeles.
On l'a pas dit en fait parce que t'es tout jeune, t'en as d'autres des Olympiades, on parle de Paris, mais après t'en as d'autres derrière qui peuvent se faire.
Je suis tout jeune, je suis tout jeune. Pas trop quand même. Hein. J'ai 31 ans. Ça vient vite après. Mais je suis le plus jeune du circuit là. Pour l'instant, enfin, des tout meilleurs, des 10 meilleurs mondiaux, je dois être le plus jeune ou le deuxième plus jeune. Donc, oui, je suis encore dans les plus jeunes. Donc bah on verra ce qui se passe. Après, peut y avoir d'autres projets aussi, monter un cabinet de kiné, fonder une famille. Donc on verra aussi par la suite ce qui se passe après Paris. Voilà. Moi je vis un peu au jour le jour, même si j'aime bien organiser la chose, mais voilà, on voit Paris et après on voit ce qui se passe.
Ton guide, il t'a pas dit, il t'inviterait pas à tenter un jour de te dire tu pourrais faire des grandes distances, des longues distances?
Alors ça, s'il écoute, ça fait plusieurs fois qu'il veut qu'on fasse des. Il aimerait bien qu'on fasse Hawaï ensemble en fait.
Ouais.
Et moi, je suis pas trop chaud pour l'instant, même si plus tard, pourquoi pas. Mais lui, il veut pas le faire trop tard parce qu'après, il va être trop vieux. Donc il faut qu'on trouve une combine pour. En fait, on prévoyait de le faire cette année, en 2020, enfin 2022. Où la saison, le début de la Paralympiade, on va dire, c'est un peu moins chargé. Mais avec tous les reports, les Hawaï a été reporté plusieurs fois, donc c'est un peu plus contraignant maintenant d'aller à Hawaï. Et puis, si ça risque peut-être de changer l'Ironman d'Hawaï, peut-être d'être délocalisé. Donc, pour nous, ça a beaucoup moins d'intérêt d'aller voilà, d'aller sur un autre site, parce que Hawaï, enfin, pour les triathlètes et pour Cyril, c'est mythique. Et l'objectif, ce serait aussi de faire ça. Et ensuite, il aimerait bien me faire découvrir Hawaï, qu'il connaît par cœur. Donc, ce sera un plaisir aussi, mais pas tout de suite. Je pense que ce sera, s'il veut bien, ce sera pour après Paris.
Ouais, effectivement, après, il y a ces contraintes-là de planifier aussi, toi, par rapport, parce que c'est pas du tout le même filière d'entraînement, on est sur des distances qui sont tellement différentes en plus que
Ouais.
ça demande pas du tout le même type d'entraînement, quoi.
Non, pas du tout. Enfin, ouais, Cyril arrive à concilier les deux, mais c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup. C'est très chronophage. Déjà, le triathlon, c'est chronophage, que ce soit courte distance ou longue distance. Bah, c'est comme les marathoniens ou les trailers, etc. C'est quand même ultra chronophage. Mais encore plus quand on fait du longue distance, des sorties de 120, 130, 150, 200 bornes à vélo. Enfin, je crois que j'ai fait 3-4 sorties de plus de 100 bornes à vélo et c'est déjà. Enfin, moi, c'est trop pour l'instant. Donc, je ne me vois pas faire 10 heures de course pour l'instant. Donc, enfin, même si Cyril, il espère qu'on ne fera pas 10 heures et je ne sais pas combien on ferait. Ouais, on se chambre par rapport à ça, par rapport à plein de choses, en fait, par rapport à tout. Et on verra plus tard quoi, si on fait un Iron ensemble.
Tu parlais tout à l'heure des jeunes sur la piste à qui tu dis vous êtes malvoyants, etc. Pour pas qu'ils gênent, mais est-ce que tu as des jeunes qui te contactent ou des familles, des parents d'enfants malvoyants qui disent bah tiens, c'est un bon exemple aussi de ce qu'on peut faire?
Pas forcément des enfants malvoyants, si, enfin, par l'intermédiaire des parents souvent. J'ai eu plusieurs contacts de parents pour savoir où se diriger pour faire telle pratique, etc. Et là, en ce moment, c'est souvent, en fait, le milieu du handicap, c'est quand même un petit milieu. Et puis, des handicapés qui font du sport, c'est encore un plus petit milieu. Et du coup, je suis contacté surtout par exemple, des anciens gars qui faisaient du sessifoot avec moi ou des kinés, des étudiants kinés pour faire du triathlon et comment on fait, etc. Enfin, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, où est-ce qu'on trouve des guides, combien ça coûte, enfin, pas mal de questions. Donc, moi, je suis content, là, ça fait plusieurs fois. En plus, il y a de plus en plus de filles, de femmes. Donc, c'est plutôt intéressant. Et moi, j'aime bien essayer d'aider les autres pour transmettre la chose. Et si je peux simplifier les choses, je le fais avec plaisir.
Ouais, bon, même si quand tu leur diras le prix du vélo, ça va un petit peu les faire tiquer.
Ouais, mais après, il y a tous les prix hein, dans le vélo. Hein. On va dire qu'un bon tandem de base, un tandem de base correct, c'est allez, 3 000 euros. Donc, pour un cycliste, c'est. Enfin, ça dépend du cycliste, mais 3 000 euros, ça, soit on peut trouver des dons, soit il faut faire taper dans ses économies. C'est ce que j'ai fait au début, je tapais dans mes économies. Et puis voilà, moi, je regrette rien. Je voulais tout mettre, toutes les chances de mon côté. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais on parlait des jeunes juste avant, mais je me rends de plus en plus dans les écoles, ouais, surtout dans les écoles. Je suis pas mal sollicité, surtout par ouais, des écoles avec des projets de label Paris 2024, surtout pour sensibiliser et échanger avec les élèves sur le sport, la vie quotidienne, le handicap, etc. Et chose que je pensais pas du tout que j'allais apprécier. En fait, j'aime beaucoup. Puis enfin, les enfants posent des questions enfin, de tout type. Il y a pas de gêne, en fait. Chose que chez les adultes, des fois, quand on voit une canne blanche ou on n'ose pas trop, un fauteuil, etc., on a un peu un regard sur le handicap, un peu. Enfin, on n'ose pas, en fait. On a peur de soit d'avoir de la pitié, soit enfin, de brusquer les gens. Alors que moi, je suis très ouvert par rapport au handicap. Et d'ailleurs, je préfère en rigoler plutôt que dramatiser et avoir de la pitié. Donc, c'est chose que je fais avec les jeunes. J'aime bien faire ça.
Ouais, et puis c'est un bon exemple hein, de ce qu'on peut faire en sport, de ce que ça permet de faire. Tu parlais parce que on a parlé de Tokyo, on parlait des Jeux Olympiques, mais il y a les compétitions, t'as les championnats d'Europe, les championnats du monde, les choses comme ça aussi.
Ouais, il y a maintenant on trouve de plus en plus de champions dans toutes les disciplines, on trouve des possibilités de faire du handisport, mais même au niveau national, enfin, il y a des choses à faire dans toutes les disciplines et à tout niveau en fait. Donc quand on aime la compétition ou même le loisir, on peut se débrouiller dans la discipline qu'on veut. Bon, après, un mec qui est malvoyant, ça va être compliqué pour lui de faire du hand, par exemple. Il n'y a pas encore d'adaptation ultra avancée, mais ouais, on peut trouver des sports assez cool.
Ouais, tu disais le Cécifoot, foot, c'est quelque chose que tu pouvais plus faire, hein, sur tu pouvais plus jouer en fait.
En fait, je pouvais jouer, mais ma vision ayant baissé, ça me permettait plus d'être à mon niveau d'avant. Et du coup, c'était assez frustrant. Et puis, dès que je changeais de direction, de toute façon, mon genou craquait dans tous les sens. Mais c'était surtout le fait d'avoir perdu un peu de vue, d'être en galère sur le terrain visuellement, qui m'a frustré. Et j'ai arrêté aussi par rapport à ça. J'ai été en équipe de France de Cécifoot de 2009, 2010 à 2000, enfin, 2011-2012. Il n'y a eu qu'une compète, en fait, il n'y a pas eu trop de compètes à cette époque-là. Et de plus avoir ce niveau-là fait que j'ai vite arrêté et j'ai eu envie de diriger vers un autre sport où je pouvais prétendre faire quelque chose, en tout cas avec de l'entraînement comme le triathlon.
Bien entendu, les compétitions comme ça, là, on a parlé des médailles tout à l'heure, etc. Finalement, à part la déception d'être quatrième, t'en retiens quoi? Et la chaleur, on évacue la chaleur, mais cette expérience olympique, finalement, qu'est-ce que t'en retires maintenant? Qu'est-ce que t'en gardes en tête?
Déjà on va pas dire que c'était un rêve parce que enfin on espère tout. Moi je fais le triathlon en voulant performer, en voulant atteindre des objectifs, et c'était un objectif, je l'ai atteint, donc déjà je peux cocher la case de l'objectif. Et puis après c'est d'apprendre de ce qui s'est passé, voilà, d'un point de vue de sportif, c'est d'apprendre ce qui s'est passé pour pas réitérer la chose. Et d'un point de vue, entre guillemets, d'avoir des grands yeux ouverts, même si je voyais pas très bien les immeubles, enfin, le village en fait, de vivre l'expérience du village avec tous ces athlètes, toutes ces nations, enfin, on parle le même langage, c'est le sport en fait, il n'y a pas de barrière, tu peux essayer de parler à tout le monde, je parle pas toutes les langues, et je parle très mal anglais. Mais voilà, l'échange sur pas mal de choses sur le village, c'était énorme. Tous les handicaps, tu vois des choses, tu verras que là-bas. Mais voilà, moi, cette expérience des jeux et des Japonais, parce que les Japonais ont quand même, bon, ils étaient un peu flippés du Covid, s'il faut le dire. C'était un peu hyper contraignant. On n'a pas vécu les mêmes jeux que les jeux précédents. Mais les Japonais très très agréables, très gentils, toujours qui voulant toujours nous aider, nous voilà faire des cadeaux. Enfin, c'est peut-être un peu utopique, mais c'est quand même génial de vivre ça là-bas. C'est ce que je dis que quand je suis rentré à Paris, moi je vois des gens dans le métro qui s'engueulent pour des broutilles ou que à la caisse du supermarché c'est pareil. Enfin. Je trouve les gens beaucoup plus agréables là-bas et voilà, je déteste le conflit et ce que j'ai vu là-bas, j'ai l'impression que tout va bien tout le temps. Bon, c'est pas le cas, on a parlé avec des Japonais, c'est pas le cas, mais c'était vraiment sympa de pouvoir découvrir une autre culture et on a pu avoir la chance de découvrir les abords du mont Fuji à 2 heures de Tokyo et c'était vraiment des très très beaux paysages et j'invite les gens à aller découvrir ce pays.
Alors, pour finir, tu vois, si par exemple, tu as quelqu'un qui veut te demander des conseils pour faire du triathlon, je te parle même pas, handicap ou pas, hein, finalement, j'ai envie de faire du triathlon, qu'est-ce que tu me conseilles?
D'être patient déjà parce que forcément il va y avoir au début on va vite très 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 vite progresser dans n'importe quel sport quand on est novice et bon souvent c'est la natation qui pêche techniquement c'est un peu compliqué mais il faut toujours persévérer et essayer de trouver des structures où on est pas mal aiguillé et pas mal comment dire coaché sur la technique que ce soit en natation en vélo en course à pied. Et voilà, de toute façon, les clubs maintenant sont de plus en plus structurés et de plus en plus aidants aux nouveaux pratiquants. Et le triathlon est, on va dire, qu'a le vent en poupe avec, enfin, c'est devenu un sport assez où les gens se dirigent de plus en plus. Et bah voilà, après, il faut un vélo, une paire de chaussures et des lunettes et un maillot de bain et on peut faire du triathlon. Donc, en fait, pour moi, le triathlon, je trouve que c'est un sport qui est accessible à tous. Donc, faut pas hésiter à se lancer. Comme je disais, comme on a fait le super sprint la semaine dernière, on peut être novice dans les 3 disciplines et arriver à faire un mini triathlon. Et voilà, donc il faut se lancer. Et après, on mettra en place des entraînements qui font qu'on va progresser et on va découvrir des super paysages en allant dans la montagne, en ayant dans des lacs magnifiques, etc. Donc, il y a des triathlons qui sont connus pour la beauté des paysages. Donc, quand on aime la nature et le sport et le dépassement de soi, je pense que c'est un des sports auxquels on peut prétendre.
C'est totalement paradoxal que tu me parles de profiter des beaux paysages, en fait.
Ouais, c'est vrai. Non, mais en fait, c'est vrai que c'est clair. C'est paradoxal. Mais tu m'as dit pour les gens en général. Moi, je te dis pour les
Ouais.
gens en général. Mais c'est vrai que moi, Cyril, il aime bien me transmettre ça aussi,
Ouais.
des choses que je vois pas sur le moment. Il prend pas mal de photos parce que moi, en zoomant pas mal, je peux voir les photos. Donc, c'est en fait, on trouve des solutions pour que je puisse quand même profiter du paysage, que ce soit sur le vélo ou après, quoi. Donc, mais c'est vrai que même sur le, j'arrive à profiter avec le reste visuel que j'ai, les couleurs, les formes, les, voilà. Après, de toute façon, on se contente de ce qu'on a. Hein.
Ouais, mais moi je trouve que c'est un magnifique exemple aussi parce que de se dire que bah tu peux puis alors, faire la nique au valide l'autre jour, ça devait être quand même top quoi.
Ouais. Franchement, ouais. Après, je pensais pas que j'allais gagner avec autant d'avance. Mais je suis content de l'avoir fait. Ouais, c'est vrai que c'était. Le coach de la Fédé m'avait envoyé un message en me disant, bon, bah, j'espère que tu vas gagner au scratch. Mais voilà, j'ai gagné au scratch et je suis content. C'est vrai que c'est quand même une fierté d'arriver à battre des valides, quoi. Enfin, après, moi, je m'entraîne, je pense, comme eux, voire plus qu'eux. Donc, c'était quand même génial de pouvoir les battre. C'est vrai.
J'avais une question, mais je sais pas si vous l'avez parce que finalement, je sais pas combien vous êtes de départ d'une course. Tu sais, moi, sur le triathlon, on voit toujours les départs de masse sur les gros triathlons, etc. Tu as peut-être moins ce phénomène-là, vous êtes moins nombreux au départ.
Ouais, on est beaucoup moins nombreux, mais on va dire qu'on est une 15, 15, ouais, une quinzaine au départ, sachant qu'il y a souvent des binômes non-voyants, donc qui partent avant. Donc, ils partent 5 ou 6 binômes non-voyants. Donc, ça fait 12 personnes avec le guide. Et puis, nous, on est une vingtaine à partir. Et sauf qu'il y a quand même des écarts de niveau. Il y a des écarts de niveau en natation. Ce n'est pas souvent groupé comme des départs de masse en triathlon. Et on est vite éparpillé sur le parcours. Donc, moi, les premiers championnats d'Europe que j'ai fait en 2019, c'était mon 3e ou 4e triathlon. Et je me suis fait écrabouiller par le guide anglais pendant enfin, toute la première partie de la natation. C'était un calvaire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Et puis après, sur le vélo, du coup, j'ai suivi le vélo. Enfin bref, du coup, la natation en départ de masse, c'est surtout quand tu n'as jamais fait. Je conseillerais aux personnes qui n'ont jamais fait et qui ne sont pas très bons nageurs de faire leur premier triathlon avec soit pas un départ de masse avec 15 000, enfin avec 1 000 personnes, ou alors partir derrière, quitte à remonter les personnes, plutôt qu'essayer de partir avec tout le monde et se prendre des coups sur la tête, des coups de pied, des coups de poing. Mais c'est quand même, je pense, en tant que triathlète, c'est quelque chose à vivre de partir avec tout le monde en départ de masse, mais pas pour un premier triathlon.
Ouais, tu sais, c'est le conseil que m'a donné Marine Leleu. Elle m'a dit, mais tu les laisses partir tous devant, et puis toi,
Ben voilà, ouais,
tu
c'est ce
prends
qu'il faut
ton
faire.
rythme tranquillement, etc.
Ouais, c'est ce qu'il faut.
Mais bon, ce
Mais
qui est.
Marine, en plus, elle a fait un triathlon en mode non-voyant.
Ah, je savais pas.
Elle a fait le triathlon de Paris en 2019. Pendant mon triathlon, moi, j'ai fait, c'était mon deuxième triathlon. Elle a fait le triathlon de Paris en mode avec des lunettes opaques. Donc, elle a vécu le truc.
Eh ben, tu vois, j'en avais pas parlé parce que je me rappelais plus quand j'ai eu dans le podcast.
Ouais.
Mais ce qui montre d'ailleurs en plus que ce qui veut dire qu'on pourrait découvrir la discipline finalement. Si on est voyant, on pourrait découvrir la discipline, certaines sensations finalement par ce biais-là
Ouais,
aussi.
ouais, ouais, ouais. Ben, c'est sûr que la sensation de nager sans rien voir, je pense que c'est quelque chose à vivre. Parce que entre le courant, les vagues, etc., et se repérer dans l'espace, c'est quand même compliqué. Après, je sais que Stéphane Diagana a fait un marathon guidé en tant que non-voyant. Beaucoup de monde commence à essayer enfin, soit essayer d'être guide, soit à se rendre compte en se mettant en situation de ce que c'est d'être non-voyant. Donc, les pertes de repères. On a une petite étude enfin je sais plus si c'est une étude exactement, mais on montre que la fréquence cardiaque, quand on met une personne valide en situation de handicap visuel total, la fréquence cardiaque de base de footing, elle est plus haute parce qu'il est plus en stress ou il est
Ouais.
plus aux aguets de ce qui va se passer. Donc c'est quelque chose d'intéressant, moi je trouve.
Mais ça ne m'étonne pas du tout parce que ça doit être un. Moi, si tu me dis que je t'enlève la vue, c'est un stress total parce qu'on a tellement. On se repose tellement sur les yeux finalement pour percevoir tout, pour faire tout un tas de choses, on s'en rend même pas compte que j'ai aucun mal à imaginer. Ça me met une question. Ton guide, il a essayé de faire t'as dit, un triathlon malvoyant pour voir ce que ça. Pour comprendre un peu ce que tu vivais toi ou finalement il n'a pas essayé?
Non, non, il n'a jamais fait. Bon, j'ai proposé de conduire le tandem et qu'il se mette derrière et qu'il ferme les yeux, mais il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Non, non, il n'a pas essayé. Après, j'ai on va dire des dessins, des schémas d'ophtalmo qui représentent un peu ma vue. Donc, il sait ce que je vois à peu près, mais il ne s'est jamais mis vraiment en situation. C'est une bonne idée, ça, je lui ferai faire d'ailleurs. On essaiera même un 50 mètres en natation ou un truc. Ou même un 400 mètres en course à pied, c'est la seule chose où je peux le battre sur un 400 mètres en course à pied. Donc, on le fera faire ça.
Oui, parce que c'est vrai, on pourrait dire, pour se rendre compte un petit peu des sensations. Après, moi, tu vois, j'ai fait un swim run l'an dernier. Oui, c'était l'an dernier. Bon, je t'avoue que dans l'eau, je voyais pas grand-chose non plus, hein, quand
Ouais,
c'est de
ouais.
l'eau.
Bah
Bon, bah. Mais c'est vrai, par contre, ce que tu disais, c'est avoir du monde autour, etc. C'est pas si simple que ça.
ouais.
Donc, je pense qu'il doit y avoir aussi une habitude, hein, d'arriver à se repérer, de se dire, bon, faut pas de stress, quoi, non plus. Faut apprendre à gérer ce stress-là.
Ouais, c'est. Mais ça me le fait beaucoup plus en course à pied. En fait, en natation, j'ai rarement eu beaucoup de monde autour de moi. Mais en course à pied, ça me le fait sur des séances de piste quand je vais avec le club, où on est. Des fois, on fait des 300, des 400, enfin bref, avec 20, 30 personnes au départ. Donc, ça, c'est des trucs que moi, j'ai beaucoup de mal à m'orienter. Et puis là, tu peux pas faire trop ça avec un guide. Donc, je pars souvent derrière. Et puis, pareil, sur des 10 bornes de masse, j'ai déjà fait un 10 bornes, la corrida d'Issy-les-Moulineaux, par exemple, où il y avait énormément de monde et il faut slalomer. Enfin, voilà. Donc, c'est plus. Plus il y a de la vitesse, plus c'est dur pour moi de gérer l'espace et les gens et là où je suis, etc. Donc, voilà. En course à pied, c'est un peu plus compliqué qu'en natation, on va dire.
Ouais, j'imagine même pas si t'avais dû être au marathon de Paris hier avec 40 000
Ouais.
personnes autour, quoi.
Bon, je serais parti au Sas Elite, c'est pas grave. Non, je rigole. Non, non, ouais, ça... Non, mais un jour, peut-être un marathon, ouais, mais c'est sûr que partir avec du monde, enfin, je préfère me mettre dans un sas qui va plus vite et si c'est possible pour moi et de partir avec derrière le ce sas-là que de galérer pendant 42 bornes à essayer de slalomer. De toute façon, plus ça avance, plus j'avance dans l'effort, moins je vois. Donc, il faut que. C'est pour ça qu'en course à pied, à la fin du triathlon, Cyril, il donne beaucoup plus d'informations et de. Et voilà, de direction, ouais, d'information, quoi.
Eh ben écoute, Thibaut, c'était super intéressant de discuter avec toi, d'échanger là-dessus. Alors, tes prochaines échéances, c'est quoi maintenant?
Les prochaines échéances de cette saison, c'est on a une manche de Coupe du Monde au Portugal, là, dans 2 semaines maintenant, fin octobre. Et puis ensuite, la saison se termine et puis on reprend. On coupe, on va dire que c'est les vacances annuelles, 2 semaines ou 2 semaines et demie, où on va dire qu'on ne fait plus rien. On se
Vraiment?
repose. Ouais, repos, vacances, repos, ouais. Puis après, c'est reparti en préparation et puis dès mars-avril, les premières compétitions.
Eh ben écoute, on suivra ça avec attention. Où est-ce qu'on peut t'encourager d'ailleurs? Comment on peut te suivre?
Alors on peut me suivre essentiellement sur les réseaux, sur Facebook, Thibaut Rigaudeau Paratriathlète, et sur Instagram, Rigaudeau Thibaut, voilà.
Eh ben écoute, je mettrai tous les liens de toute façon dans la note de l'épisode pour que les gens puissent suivre ça. Je te souhaite beaucoup beaucoup de réussite dans tes projets sportifs et hors sportifs parce que on n'a pas trop parlé finalement de kiné, mais t'as dit tu pouvais t'installer peut-être en kiné ou développer ça.
Ouais, c'est ça, on verra par la suite. Après le triathlon, je pense que quand j'aurai plus de temps, m'installer en tant que kiné. Je sais pas où encore, mais ouais.
Puis moi, je te souhaite bon courage aussi pour supporter les Parisiens tous les jours, parce que quand même,
Ah, c'est pas facile tous les jours, c'est vrai.
ça c'est ma petite touche auvergnate, tu sais. Mais j'ai travaillé pendant
Ouais,
9 mois à Paris, donc je sais ce que c'est, effectivement.
c'est pas toujours facile. Et puis moi, je suis vendéen d'origine et c'est pas quand je suis arrivé à Paris, ça fait bizarre. Au début, j'avais un peu de mal, mais bon, maintenant je me suis fait et bon, je tire la gueule tous les jours. C'est pas grave. Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai.
Eh ben écoute, sur ces mots de petit chambrage vers les Parisiens, non mais ils le méritent. Je te remercie beaucoup en tout cas pour cet épisode. Et puis nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un nouvel invité, de nouveaux conseils pour découvrir et puis essayer aussi de progresser et pour s'inspirer de tes bons conseils aussi parce que tu nous as livré des bons conseils. Je te remercie beaucoup.
Merci à toi et merci pour l'invitation et j'adore les Parisiens.
Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter un autre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcasts et tous les lecteurs de podcasts. Mais aussi, si vous le voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.